Parler de l'Église, c'est un thème tout à fait exceptionnel, hein, on n'en parle jamais, l'Église à l'Église. Donc, dites-moi un peu, quand on parle d'Église, vous pensez à quoi ? Famille, m'a dit Marguerite. Vous savez, j'ai des vieilles oreilles. Hein ? Ah, une armée, ah, ça c'est pas mal aussi. Un corps. Mais si vous posez la question à l'extérieur, on va vous dire, ah, l'église de Guebwiller, l'église Saint-Léger, elle est magnifique. Les gens pensent à un bâtiment, ils pensent à une congrégation, oui, un corps, une armée, tout ce qui symbolise la religion. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Alors, comme il a la même idée que Marguerite, dans le cœur de Dieu, l'église, c'est une famille. On peut lire ça dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Donc je vous le lis, c'est en français courant, j'aime bien cette version. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits, vous êtes de la famille de Dieu. Et 1 Timothée 3, 15, c'est Paul qui parle à Timothée, il lui dit « Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. » Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Donc, voilà. C'est Dieu pense que l'Église, c'est une famille et je voudrais qu'on travaille autour de ce thème ce matin. Alors, chacun de nous est appelé non seulement à croire en Dieu, mais aussi à lui appartenir. Bon, ça, vous le savez, hein, ça n'a rien de bien sensationnel. Mais vous savez, quand Dieu a eu terminé son travail dans le jardin d'Éden, tout était parfait, les plates-bandes étaient magnifiques. Je ne sais pas si c'était un jardin à la française, mais bon, ou à l'anglaise, ou je ne sais pas, mais voilà, c'était superbe, tout était à point. Mais Dieu, quand même... Il n'était pas convaincu que c'était tout à fait... Il manquait quelque chose. Et alors, il s'est gratté le front. Non, le front, c'est là. Hein. Il s'est peut-être gratté le nez, je ne sais pas. Mais il a dit, finalement, « Je me demande si c'est bon qu'Adam soit tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors bon, messieurs, ce n'est pas une question de repassage, de lavage ou de cuisine. Hein. Tout était pourvu dans ce domaine-là. Mais Dieu rêvait d'une famille. Adam, toi, moi, l'être humain en général, nous avons été créés pour former une communauté, une famille, et surtout pour partager cette dimension merveilleuse qu'est la relation, la communion fraternelle. Bon, c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je serais assez d'accord, mais seulement parce que nous avons perdu ce cadeau magnifique de cette ressemblance avec Dieu. Il nous avait offert cela à la création, bon, avec tout ce que, qui s'est passé dans le comportement humain depuis la création, on a perdu cette ressemblance avec Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments, parfois, quand on dit ça, il vaut mieux être seul que mal accompagné, on peut comprendre dans certaines situations. Mais à travers les lunettes divines, aucun homme, aucune femme ne peut atteindre les objectifs fixés par Dieu tout seul. Quand on regarde les grands hommes de la Bible, ils n'ont pas agi, ils ne se sont pas isolés, mais ils ont été toujours au milieu du peuple de Dieu, au milieu des autres chrétiens, et ils ne se sont jamais privés de la communion fraternelle. Bon, on connaît tous ce passage de 1 Corinthiens 12, verset 12, je vais y arriver, qui compare l'Église à un corps. Donc un corps, ben voilà, ça nous parle d'être ensemble, unis, soudés. Hein. Si vous secouez vos mains, vos doigts ne vont pas tomber, vos ongles non plus, normalement. Hein? Tout est vraiment bien attaché ensemble. Alors, je ne suis plus seul, tu n'es plus seul. Si on continue à conjuguer, on dira, bravo, ça me manque l'école. Voilà, donc vous payez les frais. Et c'est sûr que Dieu a envie de nous rencontrer régulièrement tout seul. C'est l'expression de son amour et nous répondons par l'expression de notre foi. C'est l'acte de croire. Mais il y a aussi cette connotation d'appartenance à Dieu. Notre Dieu a beaucoup d'enfants et si je lui appartiens, c'est au même titre que tout le monde, que tous les autres. je suis membre de sa famille. Alors, si nous faisons une petite vérification dans nos portefeuilles personnels, individuels, nous trouverons différentes cartes de membres. Peut-être une carte de membre à une association de pêche à la ligne, peut-être celle de la bibliothèque, bon, évidemment vos cartes bancaires, le club Nespresso, je ne sais plus trop quoi encore, mais moi j'en ai plein de cartes. Des fois elles sont périmées, mais elles sont toujours là. Mais être membre de l'Église dépasse de beaucoup la petite carte qui cherche sa place, entre les billets de 100 euros, et j'espère que vous en avez beaucoup, hein, et le reçu du pressing. Être membre de l'Église, de la famille de Dieu, c'est être un élément actif dans un organisme vivant. C'est la bonne définition, celle que Dieu a choisie et que nous devons vivre. Alors, on va quand même faire... Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de très sérieux. Donc, je vais quand même vous donner des images un peu déjantées. Alors, vous vous rappelez, l'été dernier, il a fait très chaud. Donc, nous, on avait... Étienne, bon, c'est comme notre fils avec ses enfants. Et il faisait tellement chaud qu'on passait nos après-midi dans les magasins climatisés pour profiter de la fraîcheur. Tant pis pour la carte bleue, hein. Donc, il faisait très chaud et on aurait aimé parfois être en pièces détachées pour souffrir un peu moins de la chaleur. Mais imaginez. Hein, il n'y a pas d'image, mais... Pensez au moment où votre nez vous démange. C'est terrible, le nez qui démange. Alors, on fait comme ça, mais ce n'est pas efficace. Et vous devez impérativement le gratter sous peine de tomber fou. Quand ça démange et qu'on ne peut pas gratter, ça, on tombe. C'est terrible. C'est là que vous réalisez que vous avez mis vos bras à rafraîchir dans le congélateur du sous-sol. Vous devez d'abord récupérer vos pieds qui trempent dans la baignoire pour descendre vous équiper de vos bras, tout en supportant votre nez qui crie « Gratte, gratte, mais gratte-moi, mais qu'est-ce que tu fais, gratte ?» Bon, oui, je sais, bon, c'est un peu... Mais c'est quand même ce que Dieu fait avec nous parfois, membres de sa famille. Quand il a besoin de nous, on est aux quatre coins de la maison, on est loin, on n'est pas là pour répondre à son appel, on n'est pas ensemble. Vous savez, chacun a un rôle différent de celui de son voisin, mais si chaque rôle n'est pas rempli, bien, il ampute le corps. Alors, imaginons encore une situation un peu loufoque. Monsieur Foy, avec un E, souffre de rejet. Il trouve que chaque fois qu'on parle de lui, c'est de façon négative. C'est vrai, est-ce que vous avez entendu déjà parler du foy, F-O-I-E, celui qui est là-dedans, de façon positive? On dit, ah, je suis contente, mon foie marche bien. On ne le dit jamais. Non. On va dire, alors, excusez-moi, on l'a déjà fait, mais on va dire, ah, tu as vu, gilet jaune. Il a le foie malade. Il a une crise de foie, c'est pas très, très valorisant pour le foie. Ou bien, oh, là là, Gertrude est de mauvaise humeur. Hein. C'est son foie qui lui joue des tours. En plus, monsieur Foie, avec un E, souffre d'être caché au milieu d'un tas d'organes et se dit que, ma foi, avec un S, il peut très bien s'accorder de longues vacances ou même prendre une année sabbatique. C'est très en vogue en ce moment. Et que, vu de l'extérieur, personne n'y verra rien. Huguette, est-ce que tu vois mon foie? Si ça va en vacances, tu ne le verras pas. Voilà. Oui, mais voilà. Je me suis renseignée et aucun organisme ne peut vivre sans foie. Et malgré toutes les découvertes scientifiques, on n'a pas su recréer, à ma connaissance, un foie artificiel capable de remplacer notre monsieur foie avec un E parti en congé. Tu es irremplaçable dans la mission que Dieu a prévue pour toi. Et chaque fois que tu es aux abonnés absents, eh bien voilà, tout le corps est en souffrance. Si nous voulons être efficaces, nous devons rester reliés les uns aux autres. L'appartenance à la famille de Dieu nous fera découvrir la part que nous avons à y remplir, même si nous avons parfois l'impression d'être invisibles. Vous savez, ce n'est pas ceux qu'on voit le plus qui font le plus de travail. Mais celui qui prendra le téléphone pour téléphoner, pour appeler quelqu'un qui n'avait pas l'air en forme, celui qui va prier parce qu'il sait que telle personne passe par une situation difficile, tout ça, mais c'est des actes qui sont tellement précieux pour l'Église. Bon, en plus, il ne faut pas avoir fait 10 ans de médecine, ce qui est mon cas. Enfin, j'avais lu une fois l'histoire de quelqu'un qui avait fait 10 ans de médecine, on lui a dit, ah, mais dis donc, tu vas bientôt être diplômé. Il dit, non, j'ai fait 10 fois la première année. Voilà. Donc, voilà. Peut-être qu'en ayant fait 10 fois la première année, on peut ignorer que un petit doigt coupé du corps va se dessécher et mourir lamentablement. Je me souviens que, je ne sais plus, ils avaient enlevé une personnalité célèbre il y a des années, le baron, je ne sais plus comment, et pour prouver à sa famille qu'il l'avait bien enlevé, il lui avait coupé le petit doigt, il l'avait envoyé à la famille. Hein? Bon, le petit doigt, il n'a pas été récupérable. Je crois qu'ils ont récupéré le baron après. Oui, voilà. Mais bon, un petit doigt coupé du corps ne peut pas vivre sans l'irrigation sanguine. Hein? Et nous non plus. Nous ne pouvons pas vivre sans le sang de Jésus qui coule dans son corps. Mais quand notre vie spirituelle perd de sa sonicité, qu'on se sent un peu mou, si nous sommes seuls, on n'en prend pas trop conscience. Et comme ça nous arrange parfois de ne pas voir la vérité, alors bon, on va espacer nos rendez-vous familiaux avec l'Église. Et ce sera le commencement de la fin. Vous savez, quand vous trouvez un tas de prétextes pour ne pas aller à l'Église, faites attention, c'est un mauvais signal. Donc quand nous venons à l'Église une fois de temps en temps, ben voilà, c'est un signe de mauvaise santé spirituelle et ça finira bien souvent par un désir d'indépendance, non seulement vis-à-vis de notre famille, la famille de Dieu, mais aussi vis-à-vis de Dieu lui-même. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont des obligations. Il y a des personnes qui travaillent le dimanche, il y a des personnes... Mais vous savez, les gens qui se coucounent un peu, qui se disent « Oh, ça fait 3 dimanches que j'y vais, je peux bien m'accorder une grâce matin. » Voilà, je pense que c'est important pour nous de venir dans la famille de Dieu. Quand Jésus parle de son Église, il le fait en ces termes. « Je construirai mon Église », c'est dans Matthieu 16, 18, « et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » La puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Tu veux rester vivant ? Vis ta vie d'Église avec sérieux. Jésus a vu dans l'Église un tel enjeu qu'il est mort pour elle. Vous vous rendez compte? C'est le corps de Christ, nous, enfin, quand Dieu a dit, mais c'est pas possible, cet être humain avec qui je voulais avoir une relation, il a fait n'importe quoi. Mais qui enverrai-je? Qui est-ce qui pourra aller réparer ça? Jésus a dit, moi je vais y aller, parce qu'il a vu le potentiel. Peut-être que tu te dis, oh, bon, j'aime Dieu de tout mon cœur, mais dans l'Église, ah là là, mais il y en a, mais je ne peux pas les supporter. Ne vous sentez pas mal, hein, parce que moi je l'ai pensé aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on déserte, on critique, on juge. Ça marche. Hein. Vous savez quoi? Les chrétiens ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait. Mais nous sommes perfectibles. C'est pas, le fait de ne pas être parfait, ce n'est pas irrémédiable. Et nous trouvons... Alors, qui peut nous aider dans cette progression vers la perfection? Ben, la réponse, elle est dans Philippiens 1, 6. Je suis sûr d'une chose, Dieu, qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Donc, si tu veux t'améliorer, c'est pas en restant chez toi que ça va se faire. C'est en venant dans la famille de Dieu. Mais voilà, hein, Dieu n'est pas high-tech. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais vous avez compris. Il est relationnel. Il ne travaille pas par télé-enseignement, par Internet et tout ça, quand il peut le faire au sein de la cellule familiale. Je pense qu'un chrétien sans famille spirituelle, c'est comme un membre sans corps, comme un agneau sans troupeau, un enfant sans famille. Personne pour prendre soin de lui, pour le protéger, pour le nourrir. Bon, on a déjà cité ce passage d'Éphésiens 2, 19. Je voudrais juste reprendre la dernière partie. Vous faites partie du peuple de Dieu, de sa famille. Vous en avez tous les droits. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous en avez tous les droits. C'est-à-dire que vous avez accès à la santé spirituelle. Vous avez accès à la communion fraternelle. Vous avez accès à tout ça. Ne vous en privez pas. C'est pas quelque chose... C'est pas un... quelque chose qu'on va vous rajouter, une option pour laquelle vous allez payer. Non, c'est un droit que vous avez. Maintenant, à vous de venir le chercher. Hein. Bon, c'est vrai que nous vivons dans une culture un peu individualiste. C'est chacun pour soi. Nous avons vécu pendant plusieurs années dans un immeuble. Et au bout de, je sais pas, 2-3 ans, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait même pas notre voisin de palier. Parce que chacun rentre, sort. Des fois, on se croise dans l'ascenseur ou sur le palier. Bon, voilà, on se dit bonjour, poliment. Mais, et je me souviens avoir une fois avoir un de nos enfants malade. Alain n'était pas là et il fallait aller à la pharmacie chercher des médicaments d'urgence. C'est la première fois que j'ai osé aller sonner après des années chez la voisine d'en face pour lui demander si elle pouvait aller pour moi à la pharmacie. Ce qu'elle a fait avec beaucoup de plaisir. Mais voilà, jamais je n'avais fait la démarche. On vit dans une culture individualiste. Et bon, si on regarde comment évolue notre société, on comprend vite que ce n'est pas forcément le top, hein. Et sur le plan spirituel, alors là, nous avons vu apparaître ces dernières années une nouvelle race de chrétiens. Les chrétiens papillons, qu'aucune fleur ne satisfait, parce qu'ils ont un esprit d'orphelin. Vous savez, quand on a été blessé, quand on a manqué de soins, quand on a manqué d'amour, on s'approche d'une fleur, on la butine, mais on se dit toujours, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de poison derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va me mordre, qui va me faire mal? On est devenu méfiant. On a en fait un esprit d'orphelin. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église. Surtout maintenant, on peut suivre les cultes sur Internet. Donc, voilà. Ils n'ont pas besoin de l'Église, cette structure imparfaite composée de gens tordus. Une fois, nous avons reçu un pasteur indien, il y a longtemps, hein, et il nous avait expliqué que Dieu était un architecte formidable. Alors bon, on était d'accord. Et on attendait la suite, il nous a dit oui parce que c'est le seul qui a réussi à construire une belle maison avec des bananes. Donc vous essayez de construire quelque chose de droit avec des bananes, vous allez voir que c'est difficile. C'est ce que Dieu fait pourtant. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et son opinion est quand même importante, donc on va voir ce qu'il dit dans Jean 13, 34 et 35. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez les uns pour les autres, les uns les autres, les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Au début, que je suis arrivée dans la région parisienne avant de rencontrer l'homme de ma vie. Bon, je me suis joint aux quelques jeunes qui étaient là, et il y en avait une qui venait de Bretagne, c'était une fonceuse cette fille, elle s'appelait Germaine, et elle roulait les R comme en Bretagne. Et elle avait une, je ne sais pas si vous vous rappelez les gens de ma génération, une amicis, vous savez, une coupée comme ça derrière là. Et tout son pare-brise arrière était couvert de versets. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, es-tu prêt? Enfin voilà, des trucs qui vous fichaient la trouille. Et elle roule, elle brûlait les feux rouges. Elle refusait les priorités. Franchement, quand vous sortiez de la voiture, vous étiez reconnaissant à Dieu d'en sortir entier. Moi, franchement, voilà. Hein, est-ce que c'est ça un bon témoignage? Non. Jésus, la Bible nous dit, tout le monde saura que vous êtes mes disciples parce qu'ils vont voir comment vous vous aimez. N'ayons pas de contre-témoignage. Que notre attitude, que notre vie de famille d'église ne soit pas l'inverse de ce que nous essayons de dire avec nos bouches. Ce que nous sommes est beaucoup plus important que ce que nous disons. Donc voilà, soyons une famille de Dieu à la hauteur. Et ce matin, c'est dimanche, c'est pas dimanche partout avec les fuseaux horaires, mais quand le dimanche, la famille de Dieu qui s'est choisie aux quatre coins de la terre se rassemble et s'aime, alors c'est un témoignage puissant pour le monde. Parce que le monde ne sait pas que ça existe encore. Une preuve que voilà, ça peut encore se vivre. Donc le fait d'appartenir à la famille de Dieu, c'est notre carte d'identité de vrai chrétien. Vous pouvez être un chrétien papillon, mais vous êtes plus fiable si vous êtes un chrétien qui appartient à la famille de Dieu. Et vous êtes plus solide aussi. Alors, dans une famille, on vit les uns avec les autres, on apprend au contact des autres. Chaque enfant doit découvrir comment il peut et doit se comporter en tenant compte du reste de la fratrie. Il ne peut pas vivre en isolé, en égoïste, profiter de tous les trésors du cercle familial et ne rien faire. Donc, dans la famille de Dieu, notre Église, nous apprenons à nous soucier des autres, à penser à eux, à les intégrer dans notre vie émotionnelle. Bon, ce n'est pas toujours facile. On est souvent beaucoup plus au clair sur nos droits que sur nos devoirs. Ah oui, mais non, tu as vu ça, il ne m'a pas salué. Mais toi, est-ce que tu allais le saluer? Ah oui, non, mais c'était à lui de venir. Voilà, donc c'est vrai qu'on a ces réactions. Vous savez, quand l'église de Guebwiller était encore dans l'autre bâtiment, en haut de l'escalier, où il y avait une librairie, il y avait des cartes postales, et un jour, j'ai flashé sur une que j'ai achetée, et qui disait ceci: les péchés, c'est comme les phares d'une voiture, ce sont toujours ceux des autres qui nous éblouissent. Je trouve que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça pourrait l'être. Et c'est vrai que dans une famille, on voit toujours le tort de l'autre, le manquement de l'autre, ce qu'il n'a pas fait. Pourtant, si nous désirons sincèrement nous investir de la manière avec laquelle Dieu veut que nous le fassions, il va nous y aider et ensemble nous allons grandir. Mais pour ça, il faut qu'on soit fidèle aux rendez-vous familiaux réguliers, dans nos engagements. Il ne faut pas venir uniquement à l'église quand ça ne va pas. Il ne faut pas venir chercher. Il ne faut pas venir se servir uniquement comme au supermarché. Mais il faut venir aussi pour donner. Quand tu as toi besoin que tu viennes, d'autres te bénissent. Mais à un autre moment, c'est l'inverse qui va se passer. Donc dans 1 Jean 3,16, nous lisons « Aimer, qu'est-ce que c'est ? Maintenant nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous, donc nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Bon, » Alors nous vivons ensemble nos joies, les anniversaires, les victoires, les réponses aux prières, nous vivons aussi nos souffrances, nos deuils. Nous prions les uns pour les autres. C'est vrai que 1 Corinthiens 12,26 dit « Si une partie du corps souffre, toutes les parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu un petit corps au pied. Vous savez, il est tout petit, franchement, comme une tête d'épingle. Mais aïe, 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 qu'est-ce que vous souffrez? Vous ne pouvez pas marcher, ça vous met de mauvaise humeur, c'est rien, trois fois rien. C'est à peine visible. Et pourtant, voilà, quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Donc, appartenir à la famille de Dieu nous oblige à sortir de notre isolement et de notre égoïsme aussi. Alors, bon, dans un corps, on l'a vu, il y a beaucoup de composantes. Et dans celle-ci, il y a les muscles. Bon, nous ne sommes pas tous égaux sur ce plan-là. Timothée, viens voir. On va faire un concours de muscles, Timothée et moi. Ah non, on va juste montrer nos muscles comme ça. Timothée, vas-y, montre tes muscles. Voilà. Oh là là, je vous assure que c'est dur, hein. Regardez les miens. Ils sont beaux, hein. N'est-ce pas? Merci. Non, on n'est pas tous égaux, hein, sur ce plan-là, mais ce qui nous rassure, c'est qu'on a tous des muscles, autrement on ne pourrait pas tenir debout. Donc ils sont plus ou moins musclés. Mais voilà, on en a tous. Et dans le domaine spirituel et émotionnel, nous devons aussi développer nos muscles. Je vous avoue, ça me rassure. Parce que développer mes muscles spirituels, c'est plus facile pour moi que développer mes muscles physiques. Alors, quels sont les muscles que nous devons travailler en tant que chrétiens? D'abord, il faut prendre un abonnement et fréquenter fidèlement la salle de gym qui est citée plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. C'est la salle de gym de monsieur les uns les autres. C'est un professeur de gym formidable. Je vous assure que ça vaut le coup. Là, nous travaillerons le muscle aimer, le muscle prier, le muscle exhorter, le muscle se saluer, le muscle nous servir les uns les autres, le muscle nous accepter, nous honorer, nous entraider, nous pardonner, nous soumettre les uns aux autres. Ah, qu'est-ce qu'on n'aime pas celui-là? Ça fait mal quand il faut le travailler. Nous collectionnons environ 600 muscles, 639 exactement, je n'ai pas compté les miens, hein. J'ai juste regardé sur internet. Et nous ne les développons pas tous de la même manière. Pour ma part, ce que je développe le plus, ce sont les zygomatiques, vous savez, ce qu'on utilise pour rire. Mais notre musculature émotionnelle et spirituelle ne se développera que dans la communion fraternelle. Être sain tout seul, dans son coin, c'est facile. Il n'y a pas de souci. Pas de vis-à-vis, pas de défi, tout baigne. Mais pour grandir, nous n'avons pas besoin seulement de la Bible. La famille de Dieu est un lieu de croissance extraordinaire. Venons-y, partageons nos expériences, apprenons l'humilité et notre papa se réjouira en nous regardant. Donc appartenir à la famille de Dieu fait de nous des musclés du Seigneur. Alors dans une famille, il y a une multitude de choses à faire. Et la vie devient agréable quand tout le monde met la main à la pâte. Dieu nous a tous qualifiés pour une mission particulière. 1 Corinthiens 12, 6 et 7 dit « Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en vous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. » Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Chacun. Donc voilà, on est tous concernés. Dieu a un rôle unique à nous faire jouer au sein de la famille. C'est notre ministère, notre service. Vous savez, ministère, c'est pas avec une poêle à frire derrière la tête. Hein. C'est pas une, on n'a pas une auréole. Le ministère, c'est le service. Et on a tous notre part à faire. Dieu nous équipe pour une mission bien précise. Alors, il y en a certains qui ont plusieurs casquettes. On ne voit que les petits oiseaux. Mais vous savez pourquoi ils ont plusieurs casquettes? C'est peut-être parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pris le temps ou la peine d'enfiler la leur. Parfois, il y a des choses que certains ne font pas. Alors, ben voilà, ceux qui ont déjà pas mal de choses à faire sont obligés d'assumer. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on prenne conscience de notre rôle dans la famille de Dieu. Dieu veut que chacun découvre et développe et exerce ses dons dans le cercle familial. Et si nous nous investissons, chacun de notre, pour notre part, la vie dans notre famille église deviendra un régal, une vraie fête. Vous savez, dans une famille, il y a parfois un nouveau qui fait son entrée. Alors c'est un bébé tout potelé, mais complètement dépendant. Il pleure au moment où vous voulez dormir, il ne sent pas toujours la rose. Il dort quand vous voulez sortir, bref, il est plus un poids qu'une aide efficace. Mais on sait que pour devenir un adulte, il faut d'abord être un bébé, évidemment. Donc ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec une de mes élèves, c'était il y a une trentaine d'années, elle a eu une petite sœur. Donc cette petite sœur, c'était le scoop, vous savez, dans notre petite école chrétienne. Voilà, elle était la seule à attendre une petite sœur. On a vu la maman changer un peu de forme, donc on s'est dit « ouhou ». Et puis voilà, c'était le sujet de conversation. Alors bon, au début, vraiment, elle était tellement fière de sa petite sœur. C'était le jour de gloire. Elle racontait combien le bébé était beau. Elle demandait à sa maman de l'amener à l'école pour nous la montrer, pour la faire admirer. Elle était fière. Puis au fil des jours, l'enthousiasme a baissé jusqu'à ce beau matin où elle est arrivée en larmes à l'école. Alors donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, j'ai demandé à ma maman qu'est-ce qu'on allait faire du bébé quand on allait partir en vacances. Et ma maman, elle m'a dit qu'il fallait l'amener. Donc, elle venait de découvrir que ce bébé encombrant, il allait falloir le garder tout le temps, et même l'amener en vacances. Bon, voilà. C'était une réaction d'une fillette de 9 ans, mais ça m'a fait réfléchir. Comment réagissons-nous avec nos bébés dans la famille de Dieu? Est-ce que nous les entourons? Est-ce que nous les intégrons? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à un papotage spirituel très mature avec un copain vétéran ou une vieille amie pour écouter et répondre au pourquoi de ces bébés? Est-ce que nous prenons la peine de découvrir qui ils sont, de les intégrer, de les inviter? Vous savez, je vous ai déjà raconté mon histoire, mais j'avais 8 ans quand mes parents sont venus au Seigneur, donc j'ai grandi quand même. J'ai abordé, disons, la période difficile, qu'on appelle l'âge bête. Et au sein d'une église, mais j'étais très mal dans ma peau suite à ce que j'avais vécu et tout ça. Ce qui m'a fait basculer du côté de Dieu, ce qui a fait basculer mon cœur dans le camp de Dieu, c'est une toute petite chose. Un jour, j'étais mal, mais j'avais même des idées de suicide, j'avais une quinzaine d'années. Et puis, il faisait beau, c'était une journée ensoleillée. Le groupe de jeunes avait prévu d'aller pique-niquer entre deux réunions. À ce moment-là, on avait une réunion le matin, une l'après-midi. Donc voilà, et puis j'étais pas bien, et donc le pasteur a parlé avec moi, et puis bon, j'étais pas bien, et je râlais, et je doutais, et puis tout ce qu'il me disait, je savais que c'était vrai, mais je réfutais tous ses arguments. Et puis il m'a dit, écoute, viens, on va prier avec les jeunes. Et je me suis dit, alors là, mon œil, tu te fais des idées, parce que les jeunes, ils sont tous prêts à partir pique-niquer dehors, hein, au milieu des coquelicots. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, tous les jeunes ont posé leur paquetage, leur panier, tout ça. Ils m'ont entouré et ils ont prié avec moi. Et je vous assure, ça a été plus que des mots. Ça m'a fait basculer du côté de Dieu parce que j'ai dit, bon là. Ils ont renoncé à quelque chose dont ils parlaient depuis des jours, à quelque chose qui était pour eux une partie de plaisir, juste pour m'accompagner parce que moi j'allais mal. Ils ont pris soin du bébé que j'étais. Et vous savez, ça a été une plaque tournante dans ma vie. Vous ne pouvez pas savoir, quand vous parlez avec quelqu'un, des fois ça nous énerve, on dit, mais il ne pourrait pas grandir un peu plus vite, ça fait quand même un an qu'il vient à l'église, il est toujours au même point, on a l'impression que... Ben, le fait de parler, le fait de vous asseoir à côté, le fait d'écouter, vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut déclencher dans les cœurs. Donc soyez des grands frères, des grandes sœurs, conscients des besoins des bébés. Appartenir à la famille de Dieu fait de nous des gens attentifs et actifs sur le terrain. Donc on a vu, ça nous donnait la véritable identité de chrétiens, ça faisait de nous des musclés du Seigneur. Je ne me rappelle plus l'autre, mais voilà, maintenant, attentif et actif sur le terrain. Bon, on sait tous dans notre tête qu'on est le corps de Christ, ses mains, ses pieds, son cœur. Mais est-ce que le corps de Christ restait au lit le matin du sabbat? Quand la femme samaritaine a eu besoin de lui dans la chaleur de midi, a-t-il préféré aller dans un McDo climatisé avec ses disciples? Non. Son corps physique le portait là où Dieu l'appelait. Bon, bien sûr, c'était Jésus. Mais Jésus vit en nous. Jésus vit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis maintenant le corps de Christ. Et quand Dieu me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Il y avait un chant comme ça, je ne sais pas si certains l'ont connu. Hein. Alors, notre mission ne se résume pas à être présent en esprit. Vous savez, des fois, vous avez des gens qui me disent « Je ne serai pas là, mais je serai présent par l'esprit. » Ça te fait une belle jambe. Ou à nous aimer les uns les autres dans une église bien climatisée, mais à porter ensemble ce modèle vers ceux qui y aspirent tant. Alors, Dieu nous envoie en mission au Sénégal. Bon, il y en a qui sont partis au Sénégal. Hein, au Congo, à Madagascar peut-être, mais aussi au parc de la Marseillaise, à Guebwiller. Ou dans la salle d'attente du dentiste, partout où il l'a décidé. Il veut travailler au travers de nous dans le monde, c'est-à-dire de l'autre côté de la porte. Là. Quand vous passez la porte, vous êtes en mission. Vous n'êtes pas convaincu que ça s'adresse à vous? Ah non, mais moi je suis vieux, j'ai des douleurs, tu sais, puis je ne supporte pas l'avion. Et puis, que dit Dieu dans Éphésiens 2:10? Oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Quelle action Dieu a-t-il préparée pour que toi tu les fasses? Quelle action a-t-il préparée pour que moi je les fasse? C'est pas toujours forcément celle qui nous plairait pour le moment présent, mais c'est toujours celles qui sont les plus... celles qui nous apportent le plus de bonheur, le plus de paix. Donc, nous sommes, il n'y a pas de dispense. Il n'y a pas d'âge de la retraite, il n'y a pas de dispense parce que nous sommes des dames ou des messieurs, il n'y a pas de dispense, rien. Nous sommes tous aptes au service. Donc appartenir à la famille de Dieu fait de nous des missionnaires. Et missionnaire, ça ne veut pas dire aller à Tombouctou ou à trifouiller les oies, il y a aussi des gens qui ont besoin de Dieu et c'est la porte à côté. Donc voilà. Alors quand on marche seul, on risque de trébucher, quand on est plusieurs aussi d'ailleurs. Mais bon, quand on est plusieurs, on a beaucoup plus de chances que l'un d'entre nous voit l'obstacle et avertisse ses compagnons. Puis quand on trébuche qu'on est plusieurs, on rigole bien. Voilà. Personne n'est gardé à vie de la tentation. Je crois qu'il n'existe pas de police assurance tout risque contre la tentation. Dans notre famille Église, nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Alors parfois, on se fait mal recevoir si on veut prévenir ou avertir. Alors je voudrais juste vous signaler, et me le dire aussi, que les réactions comme « mêle-toi tes affaires » ou « ça ne te regarde pas, c'est ma vie, ce n'est pas tes oignons, je ne t'ai rien demandé, de quoi tu te mêles ?» ne font pas partie du dictionnaire divin. Bon, je sais qu'elles font partie d'une autre, mais Dieu ne les cautionne pas. Donc, si quand quelqu'un vient vous voir et que vous vous sentez agressé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la personne envoyée par le Saint-Esprit a tapé juste, voilà, vous savez que c'est ce vocabulaire-là, Dieu ne le cautionne pas. Il est simplement le reflet de notre orgueil. Voici plutôt ce que Dieu conseille dans Jacques 5,19. « Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre au loin de la vérité, et un frère ou une sœur peut le ramener. » Alors, si tu es perdu loin de la vérité, laisse-toi ramener. Ne sors pas les griffes. Hébreux 3,13 nous dit aussi « Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors, chaque jour, donnez-vous du courage les uns les autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas. » Et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. J'aime cette version. Chaque jour, donnez-vous du courage les uns les autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Seigneur, tu as du boulot. Le grand maître de la tentation, il aime les chrétiens isolés qui sont loin de la famille de Dieu et sur qui ne veille aucun dirigeant spirituel ou aucun frère ou aucune sœur. Car il sait qu'ils sont sans défense et qu'ils se laissent facilement piéger. Vous parlez tout à l'heure qu'un chrétien sans église, c'est comme un agneau sans troupeau. Figurez-vous que le loup qui repère un petit agneau qui est tout seul au milieu de la prairie, il va n'en faire qu'une bouchée. Il s'attaquera plutôt à lui plutôt qu'à celui qui est au milieu de tout le troupeau avec les boucs et les brebis pour le défendre et le protéger. Non pas que vous soyez des boucs, je n'ai pas dit ça. Appartenir à la famille de Dieu nous aidera à ne pas céder à la tentation. C'est important. Et quand il y a quelque chose qui est récurrent, vous êtes tenté, ne vous isolez pas. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Ne le partagez pas à 36 000 personnes, mais trouvez une personne qui va prier avec vous et trouvez une personne à qui vous serez redevable. Autorisez-la à vous dire où tu en es. Ça vous, vraiment, c'est tellement puissant. Alors pour conclure, j'aimerais qu'on s'arrête sur les objectifs dont Dieu a rêvé en nous invitant à appartenir à une famille spirituelle. Vous avez tous une main, enfin vous en avez même deux, mais vous avez 5 doigts, c'est bien ça. Alors bon, j'ai résumé comme ça. Donc, Dieu a 5 buts pour la vie de chacun et 5 outils dans notre investissement familial pour nous aider à les atteindre. La famille de Dieu nous apporte le moyen de n'en rater aucun. Le premier but, c'est de nous centrer sur Dieu et on va y arriver par l'adoration. L'adoration dans la famille de Dieu va nous permettre de nous centrer sur Dieu. Le deuxième but, c'est faire face aux problèmes de la vie. Et ça, on va y arriver par la communion fraternelle. Quand il y en a un qui est en bas, l'autre le relève. Puis quand c'est celui qui était fort qui il plie les genoux, il n'en peut plus, c'est celui qui a été relevé qui vient. Grandir dans la foi. L'étude de la collective de la parole de Dieu va nous aider à grandir dans la foi. Et ça, c'est au sein de la famille de Dieu. Découvrir nos dons. C'est en servant que nous découvrons nos dons. Il y a des choses où parfois, on ne sait pas qu'on sait le faire. Mais quand on est devant le fait accompli, on se dit, ah là, tu vas faire ça, et bien, voilà. On se dit, ah non, non, je ne sais pas, je ne suis pas capable, mais voilà, on va le faire et on va découvrir qu'on est capable finalement. Et le dernier objectif, c'est aller vers ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la maison. Et ça, c'est en famille. La mission de la famille de Dieu, on se sent équipé, on se sent motivé, on se sent porté, on va ensemble. Bon, voilà, mais chacun peut choisir ce qu'il veut pour sa vie. Alors bon, je peux être un visiteur, alors je ne fais que passer. Je peux être spectateur ou consommateur. Je regarde, je goûte, je juge, je critique, parce que pour ça c'est bien, et puis je m'en vais. Mais je peux aussi être acteur. Et là, je m'engage. Alors, je vais vous proposer un sujet de réflexion gourmand pour les jours à venir. Deux options. Vous promenez dans la grande rue à Guebwiller. Vous regardez la vitrine du pâtissier. Comment il s'appelle, ce pâtissier? Qui est maintenant à la gare? Voilà. Voilà, il y a des bons pâtissiers, croyez-moi. Alice, qui les connaît bien, m'a amené. Et franchement, c'est vrai que... Donc, regarder la vitrine du pâtissier, déguster un bon gâteau et partir. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est rentrer dans la cuisine de la famille de Dieu, mettre la main à la pâte, afin de te régaler et de régaler les autres. Réfléchissez. Que désirez-vous? Réfléchis pour ta vie, que désires-tu? Bon, c'est juste quelques petites pensées que je voulais partager avec vous ce matin. Je crois que vraiment Dieu veut que nous, il veut ressusciter en nous cette fibre d'enfant de Dieu, d'enfant de la famille de Dieu. Et il veut que nous comprenions que, voilà, nous avons besoin d'être ensemble. C'est tellement bon d'être ensemble. Seigneur, merci pour cette famille que nous formons ici à Josué. Seigneur, merci pour chaque membre, merci pour les dons que tu as placés en chacun. Merci pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience de ces dons, parce que tu vas vraiment leur révéler ce que tu attends d'eux, ce pourquoi tu les as équipés, ce qu'ils sont capables de faire. Seigneur, que personne ne soit là en spectateur ou en visiteur, que personne ne soit là en juge, mais Seigneur, que nous soyons tous acteurs et que nous mettions tous la main à la pâte, afin que cette Église soit prête à accueillir tous ceux que tu veux y envoyer. Seigneur, merci, merci parce que tu t'occupes de tous les problèmes, Seigneur, au niveau des bâtiments, au niveau de toutes ces choses-là, c'est entre tes mains. Mais Seigneur, il y a des endroits où tu nous attends, nous, afin que nous fassions aussi nos efforts. Papa, je te prie pour que chacun puisse trouver sa place et chacun puisse prendre conscience combien c'est important de rester fidèle à la famille de Dieu. Merci pour cette famille, Papa. Merci pour ton Église universelle, pour toutes ces familles qui ce matin se sont retrouvées pour t'honorer et te louer. Mais Seigneur, que ce ne soit pas juste une parenthèse le dimanche, mais que nous soyons vraiment attachés les uns aux autres.